Salut à tous, bienvenue sur lebigusa.com. Vous êtes sur le podcast numéro 86. Stéphane Legrand, je suis à Las Vegas et j'ai un invité qui n'a pas grand-chose à voir avec la moto. Mais bon, c'est pas grave quand même. Je vous présente Frédéric Jouet. Comment, Frédéric ou Fred, comment tu...
Alors, c'est Frédéric.
C'est Frédéric.
Mais tout le monde m'appelle Fred depuis un petit moment. Donc, même moi, Frédéric, c'est pas très souvent qu'on m'appelle comme ça.
D'accord. Donc, je te dis Frédéric, tu vas pas me répondre alors.
Il y a très peu de chance.
Fred, bienvenue. Tu travailles à Las Vegas chez Exotic Racing. On va en parler. Exotic Racing, vous connaissez les abonnés parce que bah, vous avez vu des vidéos, des photos de Marvin Musquin. Il y a eu quoi ? Marvin Musquin, Chad Reed, Jérémy Magras.
Élie Tomac. On a eu aussi Dylan Ferrandis plusieurs fois. Ouais, à peu près les grosses têtes, on va dire.
Voilà, donc il y a eu pas mal de pilotes de cross qui sont venus à Exotic Racing. Donc on va commencer par le début. Ça fait combien de temps que tu es à Las Vegas et pourquoi Exotic Racing ? Comment t'en es arrivé là ? Alors, et peut-être expliquer d'abord ce que c'est Exotic Racing avant de commencer, non ?
Ouais, alors Exotic Racing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une école de pilotage de voitures de luxe, donc pilotées sur circuit, une Ferrari, une Porsche, Lamborghini, etc. Enfin, toutes les, on va dire, grosses voitures de rêve qu'on voudrait un jour mettre au volant. Donc, sont abordables ici à Vegas sur le circuit. Donc, à partir de 5 tours, on paye et on a un instructeur à ses côtés pour conduire ces voitures-là.
D'accord, sur un circuit donc qui se trouve sur le Speedway, au nord de Las Vegas, c'est bien ça ?
Ouais, voilà, donc sur la route de Salt Lake City, juste avant le désert, au Las Vegas Motor Speedway. On est tout de suite à la sortie. On a notre circuit qui est ouvert 7 jours sur 7 toute l'année.
D'accord.
Sauf maintenant.
On en reparlera plus tard. On commence par le début. C'est quoi ton background ? Parce que avant d'arriver à Las Vegas, t'as un bon coup de volant ça...
Ouais, alors moi, du coup, c'est pas dans la moto, mais effectivement, dans le sport mécanique, j'ai commencé très jeune, à 9 ans, en karting. Donc j'ai fait un peu toutes les étapes jusqu'au championnat du monde. J'ai gagné 2 fois les 24 heures du Mans, en 2 temps, bien évidemment. Podium en une finale mondiale, un titre de champion d'Europe, plusieurs titres de champion de France. Donc beaucoup de cartes, puis de la voiture. Pareil avec différentes catégories, Saxo Cup, Formule Renault en monoplace, du GT, encore de la NASCAR, du prototype. Donc j'ai fait un peu de tout, on va dire, plus ou moins avec ce que je pouvais de budget, donc avec quelques bons résultats. Là, il y a 2 ans ou 3 ans, 2017, avec le team BMW France, on termine 3e du championnat de France GT4 avec Julien Piguet, avec plusieurs victoires. Donc voilà, donc c'est assez large, on va dire. Mm-hmm. Et puis en parallèle de ça, j'ai aussi fait une carrière donc professionnelle dans tout ce qui est cascade, monitorat et pilotage, et j'ai fait pas mal de shows, notamment pour Renault F1 Team et sur les World Series by Renault, où voilà, on faisait des 360, on conduisait sur le toit de la voiture, tout ça pour des marques donc comme Renault ou Renault F1.
Mmh. Wow, grosse carrière en 4 roues alors.
Ouais, pas mal de... Ouais, ça fait maintenant plus de 30 ans que je suis là-dedans. Donc, c'est aussi ce qui a fait que je suis venu ici. Donc, ce qui a amené Romain Thiévin donc, et David Périssé à me contacter pour venir gérer la piste donc, de Las Vegas. Parce que j'avais aussi, en parallèle, eu une petite carrière chez McDonald's. Enfin, je ne sais pas si je peux citer
les
restaurants. Donc, une management à l'américaine. Du coup, c'était un bon...
Donc, ça, c'était où, ça ?
Ça, c'était à Tours. Donc, je suis originaire de Tours. Donc... j'ai fait une partie de ma carrière là-bas aussi à cause de la course automobile, parce que je pilotais pour le team McDonald's Racing Team. Donc, donc j'ai eu la chance de rencontrer, donc c'était Bernard Siminoir à l'époque, qui est donc le franchisé de tous les McDonald's dans la région de Tours et maintenant un peu plus grand aussi, qui m'a permis de piloter donc, dans son team sur des Porsche RSR, et aussi en parallèle, donc à l'époque j'avais 20 ans, de commencer une carrière professionnelle et chez McDonald's. Et donc voilà, je suis monté tous les postes jusqu'à la gestion d'un restaurant.
À Tours donc, toujours.
Voilà, ouais. Dans la région de Tours. Ouais.
D'accord.
Donc voilà, donc c'était un mix des deux, pilotage, management, qui a fait que voilà, mon profil les a intéressés, ils m'ont fait venir. Donc maintenant, il y a bientôt, enfin 7 ans et demi maintenant.
D'accord. Donc Romain et David avaient commencé déjà le track à Vegas et donc ils t'ont contacté, c'est bien ça ?
C'est ça. En fait, j'avais déjà bossé avec Romain, puisqu'on a couru ensemble dans les années 2000. Et quand il avait monté sa société, donc à l'époque, ça s'appelait Cascade Events. D'ailleurs, ça existe toujours en France. Il avait monté cette société-là au moment où j'ai commencé à travailler dans l'automobile aussi. Et on s'est retrouvés, on a travaillé un petit peu ensemble donc sur son école en France où je faisais les baptêmes et aussi j'ai aidé à mettre en place l'organisation. Et quand ils sont partis, du coup, c'était en 2009 aux États-Unis, on a resté en contact. Et puis, eux, au départ, bien évidemment, il fallait mettre toute la société en place. Et puis, quand ils ont trouvé une utilité pour me faire venir, ils m'ont fait venir.
D'accord. Tu connaissais Las Vegas?
Alors, je connaissais, oui, parce que du coup, quand ils sont venus s'installer, je suis venu en vacances pour, on va dire, les aider sur une ou deux journées à mettre en place un peu l'organisation. Et j'en ai profité, du coup, pour découvrir l'Ouest américain. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert Las Vegas. Donc, c'était en 2010.
D'accord. Et donc, tu as tout de suite accepté le job ou comment ça s'est passé au début?
Ouais, alors, c'était assez. L'histoire est assez drôle parce que. Enfin, à l'époque, donc avec ce qui est devenu ma femme maintenant, on venait de bouger dans le nord de la France, parce qu'elle est du nord de la France, moi de Tours, et donc avec tous les déplacements, etc., pour qu'elle soit assez proche de sa famille, on venait de déménager dans le nord de la France, et on était en vacances en Écosse, au fin fond de l'île de Skye, perdu complet, quand j'ai reçu un appel, et sur mon iPhone, j'ai vu Las Vegas, USA, et j'ai fait, oh, c'est quoi cet appel? J'ai pris l'appel, Romain qui me proposait donc le poste. Et du coup, j'avais Aurore, donc ma femme qui me regardait en face et qui me demandait c'est quoi? J'ai dit non, t'inquiète, c'est pas grave, je vais refuser de toute façon. Et en fait, bon, après on a discuté et bon, voilà, c'était une belle aventure à tester. Et du coup, on a pris la décision de partir.
D'accord, donc le poste c'était quoi? C'est quoi la description de ce poste?
Alors, le poste a évolué hein, depuis que j'ai
Mmh.
commencé, parce qu'au départ, je suis arrivé comme. Track manager, je crois, j'étais manager des instructeurs, donc vraiment de la partie pilotage
Mmh.
pour mettre en place toute la formation des moniteurs, de la sécurité piste, etc. etc. Et ensuite, j'ai rapidement récupéré aussi la gestion de tout ce qui était le customer service, les ventes, donc la partie host,
Mmh.
puis la vidéo qui s'est par la suite transformée aussi avec la photo. Puis le service de shuttle, puisqu'on a un service
De navette
de navette voilà, qui ramène les clients du strip. Donc ça,
entre les hôtels et
ouais, alors on a un point, c'est sur
D'accord.
Alaria, donc au milieu du strip, et on a des navettes toutes les heures pour ramener les
Donc pour
clients.
ceux qui connaissent pas, le strip, c'est la grande avenue qui traverse Las Vegas du nord au sud.
Voilà.
J'explique juste.
C'est vrai, parce que ça peut être un peu bizarre.
Ben, c'est un peu, voilà.
Et
Qui s'appelle le Las Vegas Boulevard d'ailleurs.
exactement. Et
Et qu'on appelle le strip, entre nous.
qui est au final très long parce qu'il arrive quasiment au circuit.
Voilà.
Et donc le service des shuttles, de navettes. Et puis il y a un an et demi, on a ouvert le karting aussi. Donc la piste de kart, j'ai mis en place de A à Z tout ça. Et un petit peu aussi le Racing Series, le championnat que j'ai géré en partie là sur la fin de l'année. Donc ça fait six départements. Donc maintenant le poste, c'est vice-président des opérations. Donc c'est
D'accord.
poste qui existe, enfin vice-président, c'est ce qui sonne bien aux US, voilà, pour en dire qu'on a pas mal de choses à faire.
Revenons au tout début, tout début. Combien vous avez de voitures au début?
Alors au tout début, donc j'étais pas là, hein, mais
Ouais.
ils ont commencé, je crois, avec 5-6 voitures, donc c'était
D'accord.
vraiment une petite structure. On va dire que quand ils sont arrivés, ça n'existait pas ici. C'est aussi pour ça qu'ils sont venus ici, parce qu'ils ont vu qu'il y avait un marché et
Donc ce
que.
concept, il avait déjà fait en France, il existait déjà en France. Donc de venir sur un circuit, d'acheter quoi, quelques tours et puis de rouler sur ces voitures-là. Et donc ils ont dit, tiens, c'est une idée qui pourrait très bien marcher à Las Vegas, c'est bien ça?
Ouais, exactement. Donc c'est une idée qui existait déjà et qui existe toujours en France, bon avec un niveau d'ampleur un peu plus petit, mais effectivement ça existait. Donc Romain était aussi ami d'enfance avec David, qui à l'époque venait de subir aussi la crise de 2008, puisque lui était dans les finances à Londres. Et donc ils étaient partis en vacances aux États-Unis et voilà, en se baladant dans l'Ouest américain, ils sont venus à Vegas, ils ont dit ah bah attends, c'est fou toutes les activités qu'il y a, il n'y a pas de ce qu'on fait, on devrait mettre ça en place. Et puis voilà, ils sont un peu partis de ce principe-là et ils ont ramené ça ici.
Et donc, combien de voitures, tu me disais ? 5 ?
Et donc, ouais, je ne vais pas te dire de bêtises, mais ouais, ça, peut-être 5-6 voitures pour commencer. On va dire les bases, tu sais, une Ferrari, une Lamborghini, une petite Porsche. Et puis,
pour ceux qui aiment bien les voitures et qui connaissent bien, peut-être donner les modèles, c'était quoi à l'époque ?
Alors, à l'époque, ça devait être des 430 Gallardo. C'était un petit peu l'époque de ce qu'on avait en France aussi, du coup, ce qui était le top de l'époque. Mmh. Donc, ouais, Ferrari 430, Lamborghini Gallardo, Porsche, ça devait être des Carrera. Il devait, je pense, avoir une GT3 pour faire les baptêmes. Mmh. Et puis, après, voilà, peut-être une petite Corvette ou un truc comme ça.
Donc, l'emplacement, c'était tout de suite le Speedway de Las Vegas ?
Alors, c'était le Speedway, mais c'était sur un autre circuit. Ils étaient sur l'Infield, en fait.
D'accord.
Qui est donc, pour ceux qui connaissent, donc, c'est comme à Daytona là, pour le Supercross, j'imagine. Mm-hmm. Enfin,
donc, à l'intérieur, à l'intérieur, voilà.
De l'anneau.
À l'intérieur de l'anneau, voilà. Donc, dans la partie paddock,
voilà.
Il y avait un circuit du coup, qu'ils pouvaient utiliser. Donc, au départ, c'était que quelques jours. Au départ, c'était même une journée par semaine, puis deux, puis trois. Voilà, et puis après, bah, c'est pour ça aussi qu'ils m'ont fait venir, parce que ça s'est structuré beaucoup plus gros et ils avaient besoin de monde pour gérer ça.
T'es arrivé à partir de quel moment alors ? 6 mois, un an après, comment c'était ?
Alors, ils ont ouvert en fin 2009, je crois, et moi, je suis arrivé début 2013. Mmh. Donc ça faisait peut-être 3 ans. Donc en fait, ouais, comme je te disais, ils étaient au début sur l'infield, mais avec très peu de journées par semaine. Ils allaient aussi à Los Angeles faire quelques journées. En fait, au départ, ils avaient suivi le modèle de la France, parce qu'en France, donc on avait la base sur Paris, mais il y avait aussi Salon de Provence.
D'accord.
Et en général, on faisait un week-end sur deux pour un peu étaler. Ils avaient reproduit le modèle français avec Los Angeles et Vegas. Et après, il s'avérait que bon, il y avait matière à faire de rester tout le temps ouvert sur Vegas, parce qu'il y a du trafic et de la demande.
Mmh. Surtout qu'à Vegas, tout ouvert 7 jours sur 7, presque 24 heures sur 24. Est-ce que ça a été difficile de passer de la France à Las Vegas, au point de vue du travail, après plus personnellement ?
Ouais, alors disons que au tout départ, le plus dur, au final, ça a été se faire sa place. Parce que bon, on t'arrive pas comme ça. Surtout que bon, la langue au départ, même si je pensais parler plutôt bien anglais, je me suis rendu compte que j'avais encore quelques progrès à faire. Donc on va dire que c'était un petit peu difficile au départ. Je suis venu tout seul, je faisais 14 heures par jour entre le boulot et après les cours d'anglais avec la vraie prof d'anglais qui te fait répéter 200 fois les mêmes choses. Donc c'était un petit peu difficile. Après, bon, il y avait l'excitement du début de carrière aux États-Unis, bien sûr, tout est beau, tout est nouveau, il fait beau, on a des belles voitures, beaux circuits, non, c'était une belle expérience. Après, tout a été un peu compliqué, forcément, tu recommences ta vie à zéro, les crédits de score, repasser le permis de conduire, enfin, toutes ces choses-là qui au départ n'étaient pas forcément prévues et qui bah ouais ça ajoute à en fait toute la masse de boulot que tu as à mettre en place tous les jours au niveau professionnel.
Au point de vue du visa, parce que les gens vont se poser la question, comment ça s'est passé ?
Alors visa, moi j'ai vraiment eu beaucoup de chance puisque de par ma carrière de course auparavant, j'ai réussi à avoir un visa O1. Donc ça c'est bien évidemment la compagnie qui s'est occupée de ça. Donc déjà moi ça m'a épargné tout le côté administratif. Donc j'ai eu un visa O1 donc, qui est pour les sportifs de haut niveau et qui du coup se justifie par des articles de presse, etc. Donc ça, le gros avantage et l'inconvénient de ce visa, c'est que pour les conjoints, ils ne peuvent pas travailler. Mais par contre, l'avantage, c'est le O1, c'est la base de la green card. Donc clairement, tu rajoutes un tout petit peu et hop, tout de suite, tu as la green card. Donc au bout d'un an, on a eu la green card pour que justement ma femme puisse travailler.
D'accord, la green card qui est donc la carte de résidence si les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Donc qui permet de rester et de travailler aux États-Unis.
Yep.
Du coup, ta femme t'a rejoint et vous avez travaillé ensemble ?
Ouais, donc elle m'a rejoint quelques mois après, parce que du coup, moi, il m'avait demandé de venir le plus vite possible pour mettre en place de la nouvelle structure. Et du coup, elle est arrivée 3-4 mois après. Et rapidement, donc, elle a intégré, dès qu'elle a pu travailler, Exotics, et aujourd'hui elle gère donc la partie customer service, host, ce département là en fait.
Donc tu disais que tu avais déjà un peu d'expérience dans le management avec McDonald's, donc ça n'a pas été trop difficile de faire la transition entre travailler en France et travailler aux États-Unis?
Bah, le plus difficile ça a été le choc de culture, on va dire, même si sur le papier on est proche, parce qu'en France on est très influencé par les États-Unis, les films américains, enfin un petit peu tout, on parle des États-Unis tous les jours à la télé. Par contre, quand on vit ici, on voit que c'est quand même différent. On n'a pas été éduqué pareil, on n'a pas la même façon de voir les choses. Le système est complètement différent, que ce soit les retraites, les vacances, etc. Donc c'est aussi une autre adaptation au niveau du boulot. Je pense qu'en France, on est beaucoup plus productif. Mais je pense que c'est aussi parce qu'on a plus de temps pour se reposer qu'ici. Donc ici, ils ont leur petit rythme où ils prennent pas de vacances. Ils ont aussi leurs convictions. Donc des fois, il faut leur faire changer un peu les mentalités. Il y a du bon et du moins bon. Eux, ils sont beaucoup plus sur la reconnaissance, félicitations, etc. Nous, forcément, en France, on critique beaucoup. Mais ça aussi, ses avantages, ça permet d'être plus... de toujours tirer le meilleur de tout le monde et d'aller en avant. Ici, des fois, on est un petit peu sur les acquis. On va dire que la base du travail, c'est good job. Alors qu'en France, il faut vraiment, avant d'avoir dit good job, bon travail, c'est que déjà, t'en as fait beaucoup.
Est-ce que l'activité a vite décollé ou ça a été difficile au début pour Exotic Racing?
Non, justement, l'activité a explosé rapidement. Du coup, c'est pour ça qu'il a fallu se structurer et qu'ils ont fait appel à moi. Parce que clairement, ils avaient le modèle français qui était petit et qui du coup a explosé pour devenir une machine de guerre. Et moi, je suis arrivé au début de ça, en fait, dans les années donc 2013. Après 2013, 2014, 2015, même encore 2016, c'était des années vraiment énormes. Et après, bien évidemment, le marché s'est structuré. On a eu des concurrents, plus d'activités. Donc après le gâteau a commencé à se diviser et donc maintenant ça a un petit peu baissé, mais ça reste quand même une activité qui fonctionne toute l'année.
Avec combien de voitures après, parce qu'après c'est devenu très très grand, combien de voitures vous avez et quel modèle vous aviez à partir de là?
Je crois qu'on est monté jusqu'à à peu près 60 voitures, ce qu'on a ouvert avec la Californie, donc une soixantaine de voitures. On va dire entre 15 et 20 modèles, dont certaines qu'on avait des fois en 6-7 exemplaires, d'autres en 3-4.
Comme quoi, par exemple? Encore une fois, je sais qu'il y a même des amateurs de voitures qui nous écoutent.
Alors, il n'y a pas si longtemps, on va dire le top des ventes, les fois 458, on en avait 7. Les Huracan, on a dû monter à 4 ou 5. McLaren 4, on a eu 3 Aventador. On a eu les Porsche GT3, 4-5, 4 GTR, 4 Audi, R8. Puis après, 3-4 F430.
Comment on arrive à avoir autant de voitures? J'imagine que à ta position, tu connais peut-être pas tous les chiffres, mais de passer de 5 à 70 voitures, comment c'est possible financièrement? Est-ce que ça veut dire prendre des prêts on parle de voitures quand même exotiques, des voitures qui coûtent très cher à l'achat.
Après j'ai pas effectivement tous les détails, mais beaucoup de financement, aussi des achats propres, je pense. Le truc c'est que on a énormément de passages, donc la base des 5 tours sur la plus petite des voitures, la Porsche Cayman, c'est $199. Ça monte jusqu'à $549 pour les voitures les plus grosses, donc pour 5 tours, donc c'est équivalent de 10 minutes. Donc tu multiplies ça par le nombre de journées, on a beaucoup de monde qui passe, donc ça brasse beaucoup d'argent. Donc après le tout c'est d'avoir les financements des banques, et ça, une fois qu'ils ont réussi à l'avoir, après ça a déroulé en fait, parce qu'ils voient que de toute manière il y a l'argent qui rentre et qui fait que derrière ça paye les voitures.
Au niveau de l'assurance, comment ça se passe? Si moi j'arrive demain et je conduis la voiture et je la mets dans un poteau, qu'est-ce qui se passe?
Bon, au niveau des assurances, donc, on a des grosses assurances qui couvrent donc, la totalité du stage. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu pètes la voiture, tu n'as rien à rajouter.
Cela dit, un poteau, c'est quand même rare. Il n'y a pas de poteau sur la piste.
Nous, il n'y a pas de poteau. Effectivement, on a sécurisé la piste au maximum. On a des bacs à gravier, des barrières de sécurité F1. Donc, on est vraiment très, très sécurisé. On a, moi, en tout cas, depuis que je suis là, jamais eu d'accident important. Des petits têtes à queue, des sorties de piste, ça arrive. Après, voilà, si tu casses la voiture, tu n'auras rien à payer, mais faut savoir que nous, notre on va dire marge de sécurité, notre assurance, c'est d'avoir un instructeur dans la voiture. On fait des gros briefings aussi pour être sûr que les gens comprennent ce qu'ils doivent faire. Chaque instructeur a une pédale de frein dans la voiture, donc non pas pour s'en servir, mais vraiment justement pour s'en servir en cas de sécurité si la personne n'écoute pas ou surconduit, etc. La grosse différence aussi avec la France, c'est qu'ici, on va t'encourager à aller le plus vite possible. D'ailleurs, c'est pas par hasard si on a les pilotes de Supercross qui viennent régulièrement. C'est aussi parce qu'ils s'éclatent. Ils savent qu'ils vont pouvoir se donner au maximum sans être bridés à partir du moment où c'est fait en sécurité. Donc,
Et ça, c'est pas un discours marketing. Tu demandes vraiment à tes instructeurs de repousser les limites des gens parce que les gens savent pas, en fin de compte. Ils connaissent pas la limite.
Alors, pour être honnête, j'ai pas besoin de leur demander. Parce que, comme ils adorent les tips, enfin les pourboires, ils sont les premiers à vouloir encourager les gens à aller le plus vite possible. Au contraire, moi, j'essaye plus de leur donner des cadres. Et en fait, on va dire que c'est un petit peu un deal. Parce que moi, je les force à ce que ça soit safe. Donc, en mettant en place des process et justement en les faisant respecter, on les contrôle régulièrement sur leurs vidéos on-board. Et du coup, eux, ce qu'ils veulent aussi, c'est donc se faire des pourboires. Donc en fait, c'est trouver le compromis entre la personne qui peut s'éclater à fond et qui écoute bien et celui qui va rien écouter ou surconduire parce qu'il croit qu'il a déjà fait un peu de circuit et que lui, on va arrêter le plus rapidement possible.
La personne lambda qui vient et qui monte dans une Italienne, 458 Ferrari, jusqu'où, c'est quoi la limite en fin de compte? À combien tu crois qu'un mec qui n'a jamais conduit une Ferrari peut arriver à conduire une voiture comme ça? C'est 5-10%, on est à rien du tout? Les gens ne se rendent pas compte de ça, ils ont l'impression de rouler très très vite, mais en fin de compte ils sont à l'arrêt, non?
Ouais, alors ouais, clairement.
Toi qui as conduit ces voitures
souvent,
professionnellement.
Souvent la grosse différence est, où les gens ont du mal un petit peu à comprendre, c'est la pression que tu peux exercer sur la pédale de frein. Parce qu'on a ce qu'on dit souvent plutôt l'habitude de faire du freinage progressif pour t'arrêter à un feu rouge ou un stop. Ici, on va te demander de faire du freinage dégressif, donc de vraiment taper dans les freins très fort et relâcher progressivement en fonction de l'angle que tu appliqueras au volant. Donc c'est vraiment toute une technique qui est différente. Donc, et les gens aussi n'ont pas souvent l'habitude et en tout cas le sentiment que la voiture va pouvoir tenir la route si on peut rentrer très fort dans les virages, etc. Ils croient que c'est la voiture qui a du grip. En l'occurrence, c'est pas tellement la voiture qui a du grip, c'est plutôt le transfert de charge qu'on va pouvoir opérer sur la voiture, qui est effectivement lié à la voiture, parce que c'est des voitures qui ont très peu de roulis, des châssis assez rigides. Donc ces voitures là elles peuvent être à la fois très performantes comme très dangereuses à conduire si on les utilise mal.
C'est quoi le modèle qui pardonne le moins sur la piste?
Aujourd'hui, c'est la GT2 RS qui est aussi la plus rapide sur la piste.
Okay.
Donc, c'est un petit peu le deal. Il faut arriver à maîtriser la voiture et à partir du moment où tu arrives à la sentir, à l'apprivoiser, on va dire, tu vas pouvoir sortir un super temps.
Et au contraire, la plus facile à conduire?
Alors c'est aussi une Porsche, Porsche Cayman.
Ok.
Voilà, c'est la petite base, moteur central arrière.
La moins chère d'ailleurs.
Hyper bien répartie, c'est la moins chère. Donc c'est souvent là-dessus que moi j'encourage les personnes à commencer quand ils n'ont pas d'expérience et qu'ils veulent quand même rouler relativement vite et rapidement. Même pour progresser, c'est un gros karting en fait. Donc voilà, c'est un très bon rapport qualité-prix.
Tu parlais des gens qui surconduisent. Il y en a beaucoup dans ce cas-là?
Ouais, on en a pas mal, ouais.
C'est quoi? C'est les Fangio de la route? Les Fangio du quartier?
Ouais, il y a différents profils. Ça peut être ceux qui font un petit peu de circuit, voilà, avec leur voiture, mais qui n'ont jamais eu un coach à côté d'eux et qui, du coup, ont fait 10 journées, voilà, et ils pensent qu'ils conduisent bien parce qu'ils vont vite. Voilà. On a aussi des clients... souvent... généralement, c'est ceux qui vont en parler le moins qui vont y arriver le mieux. Mmh. Donc, des fois, on a aussi des grands pilotes qui viennent, hein, et des fois qui se présentent même pas. Voilà, ils veulent juste s'amuser, ils disent rien.
Des noms.
Non, on a eu. Après, dans les grands pilotes qu'on a eu, on a quand même eu récemment Juan Pablo Montoya, Rubens Barrichello, Charles Leclerc. Qui ont tous mis un temps en haut de l'affiche. On a des pilotes de V8 Supercar d'Australie, dont le champion Scott McLaughlin. Actuellement, celui qui est en tête de notre classement, c'est Fabien Coulthard, son coéquipier, donc en V8 Supercar. Et puis, on a eu Kamui Kobayashi, qui a fait la pole aux 24 heures du Mans, qui est le recordman derrière la piste. Donc, on en avait vraiment beaucoup. Et généralement avec ceux-là on a jamais eu trop de problèmes. Ceux avec lesquels on va plus avoir de problèmes, c'est toi, le gentleman driver qui croit qu'il voilà, il a fait du Ferrari Challenge une fois et il croit qu'il est bon et en fait non.
Tu les vois venir ceux-là?
Ouais, généralement ça fait partie justement du training qu'on fait pour les instructeurs, c'est déjà déterminer le profil de ton client, donc en lui posant quelques questions. Généralement, quand le gars il commence à te raconter tout ce qu'il a fait, c'est que c'est pas bon. Et voilà, mais ouais, généralement ouais, on peut les voir venir. Ça peut arriver qu'on les voit pas venir. Après, ouais, on a aussi la difficulté des fois de la langue. Toi, on a beaucoup de Russes, des Chinois, des Japonais, donc ils comprennent rien. Donc ça, c'est encore une autre chose. Généralement, alors toi, par contre, le Japonais va pas rouler trop vite. Le chinois encore moins. par contre, le russe, lui, peut être très très dangereux.
Ah, ouais. Il y a des profils comme ça que tu parles.
Ouais, voilà. Après, c'est pas une généralité, hein, évidemment, mais ouais, on a des petits profils comme ça.
Donc celui qui arrive avec les chaussures Ferrari, la casquette Ferrari et le blouson Ferrari, tu sais que c'est un bon client.
Voilà, il nous fait rigoler déjà.
Il va vite celui-là ou pas? Ah, ça dépend.
Ça dépend, ouais, parce que bon.
Bon, Charles Leclerc, il peut arriver avec sa casquette Ferrari.
Alors généralement, lui, non, il viendra justement sans rien. Donc,
ah, bon.
Ah ouais, non, c'est justement là le truc, c'est que.
Ah, mais raconte-nous.
Non, ouais, Charles, il est venu. Tu sais, il était en vacances. C'était entre le Grand Prix de Hongrie et le Grand Prix de Spa. Et voilà, avec ses copains, et il a voulu aller se faire plaisir. Et en plus, on a maintenant la piste de karting, donc ils en profitent pour aussi. Faire une petite bataille avec ses potes et puis voilà, mettre un temps à notre classement.
Donc Charles quand il arrive, il appelle pas avant, il débarque, comment t'as su que...
Non, généralement, bon, ceux-là on l'a su avant.
D'accord.
Et ce qu'ils nous ont contacté après, c'est arrivé, alors non pas trop sur des pilotes, mais plus sur des célébrités qui sont des fois présentées sans nous prévenir, et voilà, ils ont roulé d'eux-mêmes.
D'accord. Donc c'est intéressant de voir ces gens-là rouler sur le circuit, j'imagine. Quand tu as vu Charles Leclerc ou Barrichello ou ces gens-là rouler sur le circuit, ça doit te faire quelque chose, non? Toi qui es un ancien pilote.
Ouais, non, c'est cool. C'est cool de pouvoir échanger avec eux aussi sur leur carrière, leurs expériences. Eux, ils sont souvent aussi assez admiratifs du business et de l'école, la façon dont c'est géré, etc. Parce qu'au final, c'est vrai que le sport automobile, ça reste quand même assez marginal, hein. Il n'y a pas des grosses structures, il n'y a pas de parc d'attractions à part Ferrari World, et encore c'est plus orienté manège que vraiment voiture. Donc, je pense que pour n'importe quelle personne qui est issue du milieu du sport auto, même à haut niveau, il va être assez impressionné, on va dire, d'avoir une structure comme ça, 7 jours sur 7, toute l'année, où on peut venir rouler, mettre un temps sur une voiture de luxe.
On parlait le minimum c'est 5 tours, le maximum c'est quoi? Tu peux faire combien de tours sur une voiture?
Alors, il n'y a pas de maximum, tu peux booker autant de tours que tu veux.
Mais tu ne les fais pas à la suite, j'imagine?
Non, après on fait des petits breaks de normalement tous les 5-7 tours pour refroidir un peu la voiture, parce que encore une fois les voitures ne sont pas vraiment préparées, ça reste des voitures donc stock, hein, même si on dit que c'est des voitures sportives, mais... c'est pas non plus fait pour faire du circuit toute la journée, surtout avec les chaleurs qu'on a ici à Vegas. Donc les freins sont un petit peu modifiés, mais bon, néanmoins, il faut les refroidir. Température moteur, l'été aussi, il y a certaines voitures qui réagissent plus ou moins bien donc à la chaleur. Et puis bah, après, ça dépend comment tu les pilotes aussi, l'utilisation de la boîte de vitesse, etc. Tout ça, ça peut impacter sur le réchauffement de la voiture et du coup, la mettre en panne. Donc, mm-hmm. on essaye aussi de préserver les autos.
D'accord. Tu te souviens celui qui a fait le plus de tours depuis que tu y es ? Il y a un record, un client ?
Bah, on a tous les mois faire entre 50 et 100 tours.
Non.
Ouais.
Waouh.
Et sur la GT2 RS. Donc,
d'accord.
Donc, voilà, voilà.
Donc, il a acheté la voiture presque ?
Pas loin, mais là la dernière fois il l'a détruite, donc voilà.
Comme quoi il fallait qu'il continue à s'entraîner alors.
Ouais, ou pas. Disons que là il est arrivé à un niveau qui, toi, il a son coach privé, on fait ça aussi hein, pour ceux qui viennent régulièrement, et lui il doit être dans le top 10 maintenant du général, donc il est proche des temps de Charles Leclerc, etc. Donc sauf que bon, il n'est pas pilote de Formule 1, donc il a encore, je pense, à apprendre. Et quand tu arrives après d'arriver, tu sais, à un niveau assez élevé, c'est une chose. Après, être capable de gérer les situations de danger à ce niveau-là, c'est encore une autre. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Il a perdu le contrôle de l'auto à une vitesse où, bah, quand tu connais pas, le temps de réaction est très très rapide, et du coup, si tu fais pas les bons gestes, bah, t'as vite fait te mettre dehors.
Mmh. À Exotic Racing, il n'y a pas que faire des tours, il y a aussi tu peux faire un baptême de drift.
Ouais, alors baptême de drift, donc dans une Dodge Charger 700 chevaux, jusqu'à 3 personnes embarquées, donc c'est hyper fun. Mmh. Voilà, c'est sur 2 tours, c'est abordable parce que c'est 99 par personne, et puis si tu privatises la voiture, c'est 179$. Donc ça, c'est une belle expérience. Souvent, à la fin, quand tu es avec des accompagnateurs, ça permet de bien finir l'événement. On a aussi les baptêmes de vitesse, on appelle, donc sur les Porsche, Ferrari ou Lamborghini.
D'accord.
Là, c'est 2, 3, 5 tours.
Ok, donc ça veut dire que c'est pas toi qui conduis là, c'est quelqu'un qui t'emmène.
Ouais, là t'as un pilote avec toi, donc on a des pilotes spécialisés de drift hein, qui font ça toute l'année, dont certains ont même fait des films, et puis on a aussi tous les pilotes instructeurs qui eux sont normalement tous aptes à faire des baptêmes de vitesse.
Est-ce que tu mets encore la main à la pâte ? Est-ce que tu conduis un peu ? Est-ce que tu t'emmènes des gens ?
Ça m'arrive. Plus très souvent, mais de moins en moins d'ailleurs. Mais ouais, j'ai les baptêmes, bah, c'est moi qui les faisais, donc pour la société en France avant. Donc je faisais jusqu'à 850 km de baptême par jour.
Ah, quand même.
Ouais. général, je montais en voiture et je descendais le soir, donc j'enchaînais. Ça peut m'arriver. Moi, je suis plus à tester les nouvelles voitures quand elles arrivent pour déterminer les modes qu'on va utiliser au niveau traction control. Anti-patinage, etc. Après, la plupart du temps, je laisse tous mes instructeurs qui font un très bon boulot gérer tout ça.
Combien d'instructeurs ?
J'ai une quarantaine d'instructeurs.
D'accord. Mais pas sur un même jour, c'est...
Ouais, non, c'est une base. Après, on a sur un jour vraiment très slow, enfin très calme, on va avoir 6-7 instructeurs. Et ça peut aller jusqu'à 17 instructeurs sur la journée.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour être instructeur chez Exotic Racing ?
Le mieux, ce qui est conseillé, c'est d'avoir de l'expérience dans la course. Parce que forcément, ça déterminera aussi ton anticipation des problèmes.
Sur la PlayStation, ça marche pas ?
PlayStation, ça marche moyen.
Ah, t'as pas dit pas, t'as dit moyen.
Non, j'ai dit moyen. Parce que c'est vrai que maintenant, ils font des choses quand même assez réalistes. Mais bon. Ça reste quand même que du virtuel. Voilà, ça, de la pédagogie. Donc, on regarde aussi les profils des personnes qui ont été même profs de boxe ou autre chose, mais qui ont une capacité à pouvoir apprendre aux gens et expliquer aux gens plutôt bien comment rester safe et en sécurité et performant. Et puis, on regarde aussi s'ils parlent plusieurs langues, vu qu'on a quand même beaucoup de clients qui viennent du monde entier. Voilà. Donc la polyvalence, on va dire.
Tu parlais d'ailleurs de modifications avec les voitures et tu disais qu'elles étaient d'origine. Vous changez les freins, etc. C'est ça que tu as dit. Mais généralement, tu disais que c'est une voiture que tu pourrais acheter et qui sort de chez le concessionnaire presque.
Ah ouais, tout à fait. Bah, nous, la plupart, on va les chercher chez le concessionnaire. Hein, donc elles sortent d'usine. Il y a de la concession. Souvent on leur met un petit rodage entre 500 et 1000 miles pour quand même les roder. Et ensuite, niveau préparation, on essaye de changer les freins. Donc généralement, surtout si c'est des freins céramiques, parce que ça coûte quand même énormément d'argent en termes d'utilisation. On fait aussi, des fois ça dépend des capots, pour refroidir un peu mieux la voiture. Et puis, bah, comme je te disais, on met une deuxième pédale de frein côté passager et clair-bras pour protéger donc les carrosseries des voitures des impacts. Comme ça, quand on les revend, elles sont en bon état. Mmh.
En termes de fiabilité, c'est quelles sont les marques les plus fiables que tu as dans ton parc?
Alors, fiabilité, Porsche, number one, on va dire. Très proche, maintenant, on a Lamborghini. Enfin, on va dire des modèles de Lamborghini. La Huracan, par exemple, qui est vraiment très, très fiable. On a très peu de problèmes.
Depuis que c'est passé chez Porsche, presque. Enfin, depuis qu'ils
sont... C'est chez Volkswagen.
Ah, Volkswagen, ouais. Enfin, depuis que c'est allemand
ou pas? Oui, ça a aidé. Ouais, ça a aidé. Ça a aidé pas mal. D'ailleurs, l'Audi, c'est une Lamborghini, presque. Mm-hmm. Enfin, ou inversement.
Ouais.
Donc ça, c'est, bah, l'Audi est plutôt aussi fiable.
Mais chez Lamborghini, ça dépend aussi des modèles, comme tu disais. Je sais que vous avez
ouais,
des problèmes
l'Aventador, sur l'Aventador. Par exemple, le problème, c'est que l'Aventador, c'est pas fait pour faire de la piste. Hein. C'est très lourd. Et,
L'Aventador, pour ceux qui connaissent pas, c'est la voiture la plus chère que vous avez.
Ouais.
Qui vaut
je vais pas dire de bêtises, mais ça dépend. Mais c'est dans les 350-400 000.
D'accord. Ouais. Et qui reste la moins fiable, donc.
Et qui reste une des moins fiables.
Parce qu'elle n'est pas faite pour aller sur circuit ou si moi je l'achète pour aller aller chercher le pain, ça suffit?
J'ai envie de dire, ouais, pour aller chercher le pain, ça ira peut-être mieux, ouais.
Ouais.
À l'inverse des McLaren qui, elles, sont vraiment faites pour rien du tout. Donc,
McLaren, non.
Ouais, non, oublie.
Ouais, oublie. N'importe quel modèle.
Ben, les 570S, ça va. Les pires, c'était les MP412C et maintenant là celle qu'on, alors 720S, tu vois, par exemple, on l'a eu sur un an, on l'a eu un mois.
Ah, c'est bien un mois.
Voilà. Et
elle est rentabilisée celle-là, non?
Non, du tout.
Mais qu'est-ce qu'elle leur arrive? Qu'est-ce qui se passe sur des voitures comme ça qui va quand même très cher?
Bah, McLaren, le problème, c'est que c'est très joli. C'est un constructeur qui fait de la F1 et qui sait faire des belles voitures de sport. Après, je pense que ça manque de tests et de tests de fiabilité, on va dire, là où Lamborghini bénéficie aussi de toute la structure maintenant allemande qu'ils ont. Ferrari aussi, ils ont bien développé là-dessus, mais avant c'était pareil, les Ferrari c'était très très pas fiable. McLaren, ils ont des problèmes de turbo, électronique beaucoup, les voitures du coup prennent feu, elles se mettent en sapin de Noël, le tableau de bord, enfin, tu vois, ça démarre plus, et tu restes bloqué en voiture, enfin, c'est un peu un cauchemar.
Y a combien de personnes qui s'occupent de ces voitures? Parce que j'imagine que tout est fait chez vous, sur place?
Ouais, alors, on va dire qu'il y a peut-être 90% qui est fait chez nous, il y a une dizaine de mécanos.
Donc à côté de ça, vous avez un garage où vous vous occupez des voitures le soir, j'imagine.
Voilà, de l'autre côté de la route, on a des garages, donc avec un garage qui est dédié à toutes les voitures, donc qui sont elles en état, on va dire, qui sont juste checkées le soir et le matin. Et après, toutes les voitures qui nécessitent maintenance ou réparation, elles vont dans le bâtiment principal où là il y a les ponts. Là où on va changer les freins, les plaquettes, on peut changer les boîtes de vitesse, on peut changer des moteurs. Donc on fait énormément de travail dessus. On a des mécaniciens spécialisés sur les modèles. Donc on gère quasiment tout en interne, à part ce qui est, on va dire, rentre dans le cadre des franchises, mais des...
Oui, je sais ce que tu entends.
J'ai oublié le mot, mais on va dire des trucs normaux.
Voilà. je suis en train de chercher le mot, je trouve pas. des garanties.
Voilà, les garanties. Ouais, merci.
Voilà, les garanties. Constructeurs. Vous avez de l'aide des constructeurs, enfin, vous avez quand même beaucoup de data, vous roulez quand même énormément avec ces voitures. Est-ce que vous partagez des chiffres avec les constructeurs en direct ou pas?
Non, on partage rien. À vrai
ce
dire,
qui est
ça
étonnant,
se passe...
non?
Ouais, oui, complètement. Après, c'est pas trop leur aussi. Enfin, on n'est pas forcément bien vu par les constructeurs parce que ça reste des produits. On va dire de luxe et un peu une élite, et nous on le rend abordable à tout le monde, et souvent des marques comme Ferrari, etc., eux ça leur plaît pas trop. c'est pareil, ils ont l'habitude d'avoir des clients qui ont des voitures, des Ferrari qui vont chercher le pain avec et du coup qui n'ont pas trop de problèmes. Nous, sinon, on les appelle tous les deux jours parce qu'il y a toujours un truc. Donc forcément, on n'est pas sur des relations top. Après, on reste des bons clients pour eux parce qu'on renouvelle très régulièrement nos voitures. Mais voilà, on n'a pas de contact direct avec l'usine. Donc non, on n'a pas trop de transfert d'informations. Au niveau automobile, par contre, on a un contrat avec Michelin, donc les pneus, avec lequel justement là on analyse les datas et on a vraiment une bonne relation avec eux et de développement et tout au long de l'année.
Combien de temps vous gardez une voiture ? C'est en termes d'années ou en termes de kilomètres faits sur la piste ?
C'est en termes de, ouais, de miles faits sur la piste. Alors chaque voiture a un peu différente, mais on va dire c'est entre 20 et 25 000 miles.
D'accord, ce qui correspond en kilomètres ?
1,6.
Ah donc tu veux que je fasse le calcul moi-même ?
Voilà, donc 40 000 peut-être.
D'accord.
40 000 kilomètres.
Donc ça c'est la base. 40 000.
Non, bah, c'est la base.
Suivant
on
le
va
modèle.
Dire, c'est la moyenne. Après, tu as des modèles, ça va être un peu plus, un peu moins. On sait que certains modèles, à partir d'un certain nombre de miles, ça commence à se dégrader. À Ferrari, je ne sais plus à partir de combien de miles, mais on sait que les boîtes de vitesse vont toutes tomber les unes après les autres. Il y en a d'autres, c'est les moteurs. Fin... Donc on sait que jusqu'à 25 000, ouais, normalement, on est à peu près tranquille si en faisant de la maintenance normale. Et après, on va commencer à avoir les grosses pannes.
Qu'est-ce qu'elles deviennent, ces voitures ? Une fois que vous
elles sont reconditionnées et revendues. Donc après, on a un réseau de personnes qui achètent et vendent des voitures pour nous.
Donc, c'est pas une bonne affaire d'acheter chez vous une voiture d'occasion ?
Perso, je ne leur conseille pas.
Donc, tu ne les récupères pas, toi, derrière ? Tu ne roules pas avec ?
Non, non.
Donc,
non,
tu ne roules pas en occasion derrière ?
Du tout, non.
Parce que tu n'as pas envie.
Déjà, ça ne me plaît pas plus que ça. Mais non, ouais, c'est, je ne pense pas... Quand je vois ce qu'elles font tous les jours, j'ai pas envie d'avoir ça dans mon garage. Non.
Les gens, ils tapent. C'est quoi ? C'est les boîtes de vitesse, les freins. C'est quoi ? Dans quoi ils tapent le plus ?
Ouais, boîte de vitesse. Bon, à pneus, forcément, pneus, freins, c'est la base. Ça,
les pneus, vous les changez tous les combien ?
C'est pareil, ça dépend. Mais on regarde tous les 2-3 jours. Ça dépend du nombre de personnes qui l'ont utilisé, l'utilisation qu'on en a eu. Mm-hmm. Les baptêmes de drift, c'est 2-3 fois par jour.
D'accord.
Enfin, en tout cas, les pneus arrière. Mm-hmm. Donc voilà, après, boîte de vitesse aussi, c'est quand même très fragile parce que tu as énormément de différences de pilotage entre les personnes. Donc certains utilisent trop la boîte. Alors encore une fois, les instructeurs sont là pour te guider et limiter ça, mais... T'es jamais à l'abri d'un mec qui, comme c'est des paddle shift, donc des palettes au volant, que t'as quelqu'un qui rétrograde au lieu de monter le rapport, enfin, donc ça endommage la boîte et le moteur. Donc, ouais, c'est. On va dire, c'est un peu global, quoi.
D'accord. T'as des chiffres au niveau des conducteurs ? On est en conductrice, c'est quoi le rapport par rapport au conducteur ? On est 60-40, 50-50,
on est. Non, je pense que c'est plus du 15-20% de femmes, je pense.
Ah ouais ? Ah ouais, je pensais que c'était ça peut-être plus que ça. D'accord. C'est pas beaucoup, hein.
Peut-être 30. Ouais. Mais ouais, non, c'est quand même une grosse majorité d'hommes. Bah déjà, enfin Vegas aussi, c'est voilà, les bachelor parties, les conventions, ouais. C'est beaucoup des hommes. Voilà, donc après, oui, dans certains couples. Ouais, je pense que 30%, ouais, c'est peut-être.
Les pilotes de cross, on en a parlé un peu vite fait tout à l'heure.
Quand même, un peu.
C'est lequel le plus rapide ? Celui qui t'a fait dire, putain, merde, il a un bon coup de volant celui-là.
Bah, Tomac.
Ouais.
Tomac, bon, après, c'est celui qui est venu le plus souvent aussi, mais c'est celui qui a mis le plus d'énergie directement et qui avait vraiment, on va dire, l'œil du tigre pour progresser. Il s'est pris au jeu, il est revenu plusieurs fois. On l'a pas revu là depuis 2 ans, mais. Ou un an, je sais plus. Mais
tu sais pourquoi ? Parce qu'il s'est acheté la bagnole.
Ah ouais ? Ah non, laquelle ? La GT3 RS ?
Ouais,
ou...
ouais.
Ah,
ouais.
Il devrait venir, il faut lui dire qu'il a la GT2 RS maintenant, s'il veut battre son record. Mais il a longtemps été en haut de l'affiche au niveau du classement. Donc du
mais il est toujours dans le top 10, non ? Ou top 5 même, non ?
Non, là, je pense qu'il a dû rétrograder. Parce d'accord. que depuis qu'on a la GT2 RS, donc les temps sont vraiment tombés. Et puis, comme je disais, on a eu pas mal de pilotes là, qui sont venus récemment. Donc, ça l'a fait un petit peu baisser dans le classement. Mais il y a maintenant Dylan Ferrandis aussi qui vient assez régulièrement et qui progresse bien aussi. qui pareil a envie de progresser là ces derniers temps. Il...
Toujours sur la Porsche
ou ouais, pas lui il est sur la GT3 RS pour l'instant.
D'accord.
Ouais. Il est resté toujours sur la Porsche parce que bah, en fait la GT3 RS a été la voiture avec laquelle ils ont commencé là, Tomac, du coup il y avait Musquin, tout mm-hmm. ça.
Et Chadrid aussi
Chadrid,
qui était venu.
Ouais, exactement. Donc c'était la voiture top de l'époque. Donc ils sont restés un petit peu focus là-dessus. Et c'est vrai que là depuis on a un petit peu eu des nouveaux modèles. On a aussi une Ferrari Pista qui est rapide, la GT2 RS qui est vraiment un monstre. Et donc ouais, je pense qu'ils ont encore moyen de progresser bientôt.
Mmh. T'as regardé les vidéos hein, évidemment de ces pilotes de cross. Ils ont un coup de volant qui ressemble à quoi en fin de compte, parce que c'est quand même vachement différent par rapport à une moto de cross. Est-ce qu'ils ont le sens des trajectoires par exemple, ou des freinages?
Ouais, c'est un petit peu différent. Ouais. Après voilà bon, et encore une fois Thomas il avait quand même plutôt une bonne technique, il s'est vite adapté, il a bien écouté et progressé. On va dire que les petits défauts, ça va peut-être être d'être un petit peu trop incisif sur le volant. Parce que, alors, encore une fois, je n'y connais rien en motocross, mais j'ai l'impression que c'est pour le peu que j'ai vu au supercross. Voilà, c'est on va dire peut-être un peu plus brut, vu de l'extérieur en tout cas, couper les trajectoires, etc. Nous, en voiture, on va essayer d'arrondir un peu plus le virage, garder la vitesse. Donc les freinages bien évidemment sont appuyés, mais on s'arrête pas dans le virage pour repartir. Donc je pense qu'ils avaient tendance un peu à couper les virages, taper un peu trop fort le frein, un peu trop brusque sur le volant on va dire. Mais bon, globalement ils étaient tous rapides hein, donc après c'est du peaufinage.
Tu crois que ça Chadrid déjà fait de la, comment on appelle, le Lamborghini
Trofeo, ouais.
Trofeo.
Super Trofeo.
Est-ce que tu crois que c'est des carrières après carrière? Est-ce qu'ils peuvent être bons à ça?
Ouais, carrément. Mais je pense que on l'a vu aussi avec d'autres sportifs de haut niveau qui sont mis au sport auto plus tard, comme Luc Alphand, par exemple. Je pense que quand tu as eu l'habitude du haut niveau, le sport automobile, après, ça reste beaucoup de roulage. Donc, quand tu as les moyens de pouvoir rouler. Là, dernièrement, alors, toi, on a coaché la petite qui fait du X-Game, Laetitia Buffoni, là, une brésilienne.
Oui, qui fait des skateboards. Ouais.
Donc, elle veut...
Qui est mignonne comme tout, d'ailleurs.
Elle est plutôt sympa. Et du coup, justement, on l'a eu il y a 2 semaines. Et elle me disait justement qu'elle voulait faire carrière aussi dans le sport auto à haut niveau plus tard. Donc là, elle a les Jeux Olympiques avant, mais... elle aimerait bien en faire plus tard et voilà, elle a déjà la mentalité et l'écoute. Je pense que quand tu as fait du sport à haut niveau, que tu as l'habitude de travailler dur pour progresser, après quand tu arrives en sport automobile, si en plus tu as la chance d'avoir un peu de notoriété et donc des sponsors pour pouvoir te faire rouler, généralement tu devrais pouvoir faire des résultats au moins corrects.
Mmh. J'ai eu la chance de t'emmener à voir un supercross pour la première fois. Qu'est-ce qu'on a pensé parce qu'encore une fois c'est vachement différent de la bagnole. Alors, du spectacle, du format, des pilotes, la façon dont c'est fait. J'aimerais bien que tu me donnes ton avis là-dessus.
Ouais, alors la toute première fois, je sais pas si tu te souviens, mais c'était l'année où il pleuvait et...
Non, mais ça compte pas, il pleut jamais avec Vegas.
C'était la seule année qui était horrible. Mais j'y suis retourné depuis plusieurs fois, non. C'est super, honnêtement, c'est du spectacle. J'adore ça me rappelle aussi un peu le côté karting de niveau, moi, à l'époque où je le faisais, ou les paddocks avec les... toi, t'es un petit peu dans la terre et tout le monde ensemble. C'est à la fois professionnel, mais c'est pas non plus trop prise de tête, on va dire. J'aime bien le côté... toi, il y a pas mal de pilotes français que j'avais pu rencontrer aussi qui venaient faire quelques courses et découvrir le championnat. Le fait de pouvoir mélanger justement ces gars-là qui rêvaient peut-être de faire ça avec des stars planétaires qui gagnent les Monster Cup, etc. Mmh. J'aime bien le concept. Le spectacle est bien sûr impressionnant d'être dans les stades. Les courses sont spectaculaires. Non, moi c'est un sport qui m'impressionne énormément et souvent d'ailleurs, et pour ça je fais vraiment le parallèle avec le kart, parce que je pense que Supercross et kart, on est plus proche que vraiment Supercross et course auto. Mm-hmm. Parce que course auto c'est un peu plus épuré, aseptisé. Le kart et le Supercross c'est un peu plus puriste, je pense.
C'est plus facile, enfin plus facile je sais pas, mais de passer de 2 roues à 4 roues que 4 roues à 2 roues.
Alors,
tu te verrais essayer demain pas de faire du cross?
Non. Je pense que c'est plus facile de passer de motocross à voiture que l'inverse.
Ouais.
Je pense. Après. Ouais.
Ce que tu fais en voiture,
non, mais
est-ce que tu sais faire en voiture, est-ce que tu penses pouvoir le transposer en moto, toi?
Non,
pas du tout.
Pas vraiment. Non, honnêtement, les seules choses dont je pourrais me servir, c'est la gestion de course, se préparer pour une course, etc. Après, je pense que déjà physiquement, laisse tomber. et puis, les trajectoires, enfin, il y a vraiment beaucoup de différences. Donc, je pense que ça nécessiterait beaucoup de préparation.
On a parlé de tout ça dans le meilleur des mondes. Malheureusement, on est en train de vivre une période un peu difficile. Las Vegas, tout est fermé. Les casinos, les hôtels, tout ce qui est magasin non essentiel. Et Exotic Racing en fait partie. Comment tu es en train de vivre ça, Fred? J'imagine que ce n'est pas facile, comme tout le monde.
Ouais, alors après, c'est vraiment bizarre comme situation à vivre. Ça nous est tombé un peu dessus comme ça. Je pense que tout le monde ne réalise pas vraiment ce qui se passe. On est un peu en parallèle de ce qui se passe partout dans le monde. Parce que évidemment, on a vu ça arriver en Chine d'abord, puis l'Europe. On savait que ça allait arriver ici, mais on ne savait pas trop comment. Pendant ce temps-là, on vivait ici comme si de rien n'était. Il y avait tout le temps énormément de monde qui venait au circuit. Et puis quasiment du jour au lendemain, du jour où on a annoncé qu'on fermait les frontières avec l'Europe, tout a commencé à s'écrouler, stock market, les hôtels ont commencé à fermer les uns après les autres. Nous aussi, nous, on était, même si on commençait à réduire un petit peu les activités, ça s'est fait comme ça du jour au jour. En fait, un lundi, on devait faire la semaine et le lundi soir, on a fermé. Donc, c'est assez violent, assez bizarre. C'est sûr que c'est la première crise que je vis ici aux États-Unis. Donc je pense que c'est aussi un peu une partie de leur culture, mais c'est assez violent, tout le monde se retrouve au chômage, et puis on attend que ça reparte, donc et je pense que ça repartira fort, parce qu'ils sont forts pour ça, mais après, celle-là, cette crise-là, elle est un petit peu plus longue que les autres, donc on va voir.
Donc nous, à Las Vegas, on n'est toujours pas en confinement par rapport à la France, ça n'empêche pas que t'as plus de boulot du jour au lendemain. Comment, pour les Français, qu'on comprenne un peu comment le système fonctionne aux États-Unis, qu'est-ce que ça te donne pour toi? Qu'est-ce que ça représente que le circuit soit fermé?
Moi, ce que ça représente, c'est que je travaille plus. Mm-hmm. Donc, ça a été assez rapide. Après, il y a quand même, au contraire de ce qu'on peut croire en France, il y a quand même des aides qui se mettent en place, qui sont bien évidemment pas aussi grandes que ce que ça peut l'être en France, mais il y a un système de chômage
qui dure pas aussi longtemps, mais
qui est pas aussi conséquent, qui dure pas aussi longtemps, mais qui a le mérite d'exister déjà. Donc ça limite, on va dire, un petit peu les frais. Quand on commence à s'habituer aux US, on est toujours content d'avoir quelque chose, parce que on a tellement l'habitude de devoir payer pour tout que d'avoir un petit peu d'aide, c'est déjà une chose. Tout le monde n'a pas forcément cette chance là. Nous, ce qui est bizarre, c'est que on sait que ça va repartir, enfin tout le monde est licencié, on va dire, temporairement avant d'être embauché quand ça va repartir. Donc là, on ne sait pas quand. Aujourd'hui, la date officielle pour nous, Exotic, c'est le 1er mai, mais ça peut être plus, peut-être un peu moins si ça repart avant, mais ça, on y croit moyen. Maintenant, c'est à voir dans le futur comment ça va évoluer.
Mm-hmm. Personnellement, comment tu le vis, cette situation?
Écoute, c'est un peu dur au départ, comme je disais, parce que on s'investit beaucoup et du jour au lendemain, de peur à rien. Alors même si c'est, on va dire, provisoire, mais c'est plus psychologiquement, c'est un peu dur à intégrer de dire licencié. Mm-hmm. on s'y fait. Moi, la bonne chose que je vois, c'est que aujourd'hui, ça nous impose un repos forcé. Et au final, ça fait pas de mal de pouvoir se reposer, de faire un peu le point et puis de recharger les batteries pour quand ça repartira, prendre les bonnes décisions, faire les bons choix et puis être motivé à retravailler.
On a l'impression que Las Vegas a vécu pas mal de crises comme ça, la crise de 2008, après, plus avant, il y avait 9-11, enfin, les attentats, après le mec qui a tué la tuerie à Mandela Bay, etc., etc. Mais on a toujours l'impression que c'est une ville qui rebondit plus fort qu'ailleurs. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Bah, je pense que oui, ouais. Après, encore une fois, les États-Unis, c'est comme un pays capitaliste. Ils marchent, enfin, ils vont en avant. Donc, tu leur donnes 10 dollars, ils en dépensent 11. Donc, je pense que quand ils vont rouvrir les vannes, ça va repartir à fond. Ils vont faire en sorte que justement tout le monde. Là, ils font en sorte de toute manière pour que tout le monde garde son argent. Ils repoussent les crédits, ils repoussent les impôts, etc. Pour que voilà, tout le monde garde un petit peu d'argent pour qu'au moment où ça reparte, justement, que l'économie soit pas complètement à zéro. Et que bah, tout le monde commence à reconsommer et que voilà, le business reparte, que ça rembauche, et etc. C'est une grosse machine, hein, donc le système fonctionne comme ça, hein, ils ont l'habitude d'être comme ça, les gens.
Concrètement, les voitures qui ne roulent pas, est-ce qu'il faut les faire démarrer de temps en temps sur de long terme, comment ça se passe? Enfin, encore une fois, j'y connais rien en mécanique. Mais...
Ouais, alors là, bah, de toute façon, on a gardé des mécaniciens donc, qui maintiennent les voitures. Après, tu peux ne pas la démarrer pendant 2 mois. Encore une fois, c'est des voitures normales, c'est pas des voitures de course, donc t'as pas l'huile qui va tomber dans le moteur normalement. Mais après, oui, tu peux éventuellement les démarrer une fois de temps en temps si ça dure vraiment très longtemps, mais normalement, c'est des voitures qui peuvent rester dans le garage pendant un petit moment.
Donc, a priori, c'est juste un mauvais moment à passer pour tout le monde, aussi bien en Europe qu'ici que dans le monde. Et puis on va attendre que ça reprenne, quoi. On n'a pas trop le choix.
Exactement, là, on ne sait pas. Je pense que c'est point d'interrogation pour tout le monde. On ne sait pas quand c'est ce que ça va repartir. On espère le plus rapidement possible, mais on verra bien.
En tout cas, merci beaucoup, Fred, d'avoir été l'invité de ce podcast numéro 86. J'essaie toujours de faire des podcasts un peu différents pour vous faire découvrir des choses que vous ne connaissez pas forcément. Donc, Fred, c'était l'un de ces sujets-là, de pouvoir justement de sortir un peu de ce monde de supercross et de motocross et de voir qu'il y a autre chose dans la vie. Donc, merci beaucoup, Fred, d'avoir été mon invité. Je sais que tu es abonné à lebigusa.com, hein, donc tu vas pouvoir écouter ça et dire à tes amis de les écouter.
Exactement. J'ai quelques amis d'ailleurs qui sont abonnés, donc on pourra en parler.
Voilà.
Merci à toi.
Merci beaucoup, Fred. Je vous souhaite à tous d'avoir écouté ce podcast. De bonnes soirées, de bonnes journées, tout ce que vous voulez. On essaye de remplir le site du mieux qu'on peut. Donc ce podcast en fait partie, il y en aura évidemment d'autres. Tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est de rester chez vous, hein. C'est ce qu'on dit en France, restez chez vous, lavez-vous les mains, et puis peace.
Faites pas la bise.
Voilà, à bientôt, ciao.